No, 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 moi. Confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. J'suis dans mon confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. L'état a bombé le torse, ah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Les poches remplies de gel, ah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais.
Salut.
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 Bienvenue dans cette nouvelle émission de Détournement féministe. On s'est pas mal demandé de quoi on allait pouvoir parler pour cette émission. On a commencé par se dire qu'on voulait surtout pas causer de confinement. Et puis, bah, l'air de rien, on a quand même pas tant que ça a réussi à parler d'autre chose. Du coup, on a eu envie de partager avec vous nos coups de gueule, ce que ça nous fait vivre, cette situation, l'impact de ce confinement sur nos villes et sur nos vies.
Comme vous l'aurez compris, donc on est en studio virtuel avec Adèle, Audrey, Meryl et moi, Béné. Du coup, on enregistre à distance cette émission pour votre plus grande joie. Et on voulait aussi vous dire qu'à Détournement féministe, eh ben, on accueille du coup trois nouvelles personnes, dont Meryl qui est avec nous aujourd'hui.
Salut.
Et voilà, c'est pas si simple que ça d'accueillir des nouvelles personnes en confinement dans une émission, mais on essaye de faire ça au mieux. Et voilà, donc vous allez entendre de nouvelles voix dans cette émission aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de l'émission, on va commencer avec une chronique qui est un texte lu de Maria Galindo. Donc, en fait, c'est un texte qui a été écrit d'abord en espagnol. Donc, c'est une. Maria Galindo, c'est une activiste militante, féministe, anarchiste bolivienne, et qui fait partie du mouvement Mujeres Creando. Et du coup, ce texte, il a été écrit, je crois, à la base pour la radio, et ensuite, il a été publié dans diverses revues en Bolivie ou ailleurs en Amérique latine. Et du coup, on a eu envie avec une amie qui participe aussi avec nous à l'émission de manière temporaire, de traduire ce texte en français et de vous en faire une lecture collective. Donc, le texte s'appelle « Désobéissance, à cause de toi, je vais survivre ». Vous l'entendrez tout à l'heure, on a essayé de vous faire une lecture à plusieurs voix du coup de ce texte.
Après, on continuera avec donc, une chronique de Raph, une de nos nouvelles militantes avec nous à Détournement féministe, donc, qui a eu envie de partager un peu son quotidien de confiné en ville, en écrivant et en nous lisant des petites scènes courtes de la vie dans la rue confinée. Donc voilà, c'est des petites pastilles que vous allez pouvoir découvrir.
Vous entendrez aussi une chronique de la vie d'une confinée, écrite et mise en voix par Béné.
Et ça se terminera par une chronique de livre autour de la biographie de Sylvia Pankhurst, écrite par Marie-Hélène Dumas.
Il y aura aussi des surprises ainsi que des chansons pour ponctuer tout ça.
Eh bien, belle émission!
Bonne écoute!
Salut. À bientôt en réel.
Désobéissance, par ta faute, je vais survivre. Un texte de Maria Galindo, lu par Léa, Béné, Audrey, Adèle et Meryl.
J'ai le coronavirus, parce que même si la maladie n'a pas encore pénétré mon corps, des jantes que j'aime l'ont. Parce que le coronavirus est en train de traverser des villes par lesquelles je suis passée ces dernières semaines. Parce que le coronavirus a changé d'un claquement de doigts, comme s'il s'agissait d'un miracle, d'une catastrophe, d'une tragédie sans remède, absolument tout. Là où tu marches, il est présent. Là où tu arrives, il est arrivé avant toi, et rien ne peut plus se penser ni se faire sans le coronavirus. Il semble que je ne sois pas la seule à avoir le coronavirus, mais que nous l'avons toutes et tous, toutes les institutions, tous les pays, tous les quartiers et toutes les activités. Ce qui est clair, c'est que le corona, plus qu'une maladie, semble être une forme de dictature mondiale multigouvernementale, policière et militaire. Le corona est la peur de la contamination. Le corona est un ordre de confinement, aussi absurde soit-il. Le corona est un ordre de distance, aussi impossible soit-il. Le corona est un permis de suppression de toutes les libertés, qui sous couvert de protection s'étend sans droit à la contestation ni à la remise en question. Le corona est un code de qualification des activités dites indispensables, où la seule chose permise est que nous allions travailler, ou que nous travaillions en télétravail comme seul signe de vie.
Le corona est un instrument qui semble efficace pour effacer, minimiser, occulter et mettre entre parenthèses d'autres problèmes sociaux et politiques que nous étions en train de conceptualiser. Soudain et comme par magie, il disparaît sous le tapis ou derrière le géant. Le corona est l'élimination de l'espace social le plus vital, le plus démocratique et le plus important de nos vies qu'est la rue, ce dehors que virtuellement nous ne devons plus traverser et qui pour beaucoup était le seul espace qui restait. Le corona est le domaine de la vie virtuelle. Il faut être scotché à un réseau social pour communiquer et savoir que tu es en société. Le corona est la militarisation de la vie sociale. C'est ce qui ressemble le plus à une dictature où il n'y a pas d'information, sauf en quantité calculée pour produire de la peur. Le corona est une arme de destruction et de prohibition, apparemment légitime, des contestations sociales, où ils nous disent que le plus dangereux c'est de se rassembler et de se réunir. Le corona est la restitution du concept de frontière sous sa forme la plus absurde. Ils nous disent que fermer une frontière est une mesure de sécurité alors que le corona est à l'intérieur et qu'une telle fermeture n'empêche pas l'entrée d'un virus microscopique et invisible, mais qu'elle empêche et classe les corps qui pourront entrer ou sortir des frontières.
L'espace Schengen, là d'où s'est propagé le corona jusqu'à cette partie du monde où j'habite, ferme sa frontière à la circulation des corps en dehors de cet espace et accomplit enfin le rêve fasciste selon lequel le danger, c'est les autres. Le corona pourrait être l'holocauste du XXIe siècle qui entraîne l'extermination massive de personnes qui mourront et sont déjà en train de mourir parce que leurs corps ne résistent pas à la maladie et que les systèmes de santé les ont classés selon une logique darwinienne comme faisant partie de ceux qui n'ont pas d'utilité et qui par conséquent doivent mourir. Les millions d'euros de sauvetage de leurs économies coloniales apparaissent pour régler les loyers, les factures de services, les salaires, alors que jusque-là on réduisait l'horizon de toute cette masse prolétarisée en clamant qu'il n'y avait pas de quoi payer la dette sociale. Maintenant qu'ils les tiennent, morts de peur, obéissants et reclus, ils les récompensent avec la douce consolation qu'ils vont rembourser leurs dettes après avoir remboursé celles qui importent, celles des entreprises et des États. Les socialistes, comme ceux qui gouvernent l'Espagne, parlent d'une guerre que nous allons vaincre tous ensemble. Ils aiment ce mot. Ils pensent que cela sert à faire corps et à faire de la maladie l'ennemi idéal supposé qui nous unit. Rien de plus fasciste que de déclarer une guerre contre la société et contre la démocratie en profitant de la peur de la maladie. Rien de plus fasciste que de faire des maisons des gens de leur prison. Rien de plus néolibéral que de proclamer le sauve-qui-peut comme solution de tutelle. Et que se passe-t-il quand le corona traverse la frontière et arrive dans un pays comme la Bolivie?
On commence par dire que la dingue l'attendait à la porte. La dingue qui est en train de tuer dans les tropiques, sans faire la une des journaux, les personnes souffrant de malnutrition, les Wawa, enfants en quechua, et ceux qui vivent dans les zones périurbaines insalubres. La dengue et le corona se sont salués. À côté se trouvaient la tuberculose et le cancer, qui dans cette partie du monde sont des condamnations à mort. Les hôpitaux, construits pour la plupart au début du XXe siècle avec le boom de l'étain, et modernisés par la suite dans les années 70 du siècle passé, avec l'apogée du développementalisme, se sont effondrés il y a longtemps, et s'y est implantée la mauvaise habitude de guérir les jantes en fonction de l'argent dont ils ou elles disposaient pour payer les médicaments, tous importés et hors de prix. Le corona entre et arrive par avion, pas de touristes, mais de nos exilés du néolibéralisme qui ont construit des ponts affectifs qui font qu'elles viennent rendre visite à des étrangers qu'elles appellent enfants, frères ou parents. Elles arrivent avec des cadeaux et des corps infectés. Mais la maladie n'arrive pas seulement dans leur corps. Elle arrive en première classe aussi. Elle arrive parce qu'elle doit arriver. C'est aussi simple que ça. C'est incroyable qu'on doive en appeler au sens commun et leur dire que les frontières ne peuvent pas se fermer. Et aussi qu'on ne peut pas mettre de toit au soleil, ni de mur aux montagnes, ni de porte à la jungle. Il est arrivé par mille endroits. Mais c'est le corps d'une de nos exilées du néolibéralisme qui a été stigmatisée et maltraitée comme la porteuse. Alors même que c'est elle et pas d'autres qui font vivre ce pays, hier comme aujourd'hui. Les proches des malades s'organisent pour éviter qu'on les hospitalise dans la panique, parce qu'avant que le corona n'arrive dans un corps, il était arrivé sous forme de peur, de psychose collective, d'instruments de classification, de mode d'emploi, d'éloignement.
L'ordre colonial du monde nous a transformés en idiots, qui ne pouvons que répéter et copier. Privés de penser par nous-mêmes, ici en Bolivie, la présidente a décidé de copier des pans entiers du discours et des mesures du président espagnol. Et lisant le téléprompteur, elle annonce un ensemble de mesures comme si elle se trouvait à Madrid, et non à La Paz. Elle parle de guerre qu'il faut gagner ensemble, et des entrepreneurs avec lesquels elle va se concerter. Et elle annonce un couvre-feu et des interdictions en série. La seule différence dans son discours, c'est le recours à la coopération internationale. La mendicité bien connue dans laquelle nous nous voterons pour qu'ils nous fassent don aussi bien de masques que d'idées, une fois qu'ils en auront eu assez. La seule différence dans son discours, c'est qu'ici, il n'y a pas d'excédent, ni de milliers et encore moins de millions d'euros avec lesquels payer les factures. Ici, la sentence de mort était écrite bien avant que le coronavirus ne débarque en avion de tourisme. Alors que j'attends la révélation qui éclairera le chemin à suivre et qui, j'en suis sûre, arrivera par le corps faible et fiévreux qui nous la dévoilera, alors que je me consacre avec mes sœurs à désobéir à l'interdiction de fabriquer du gel maison pour le vendre, parce que nous aussi nous devons survivre, alors que je fouille dans mes livres de médecine traditionnelle pour produire une friction respiratoire antivirale, comme nous le faisions quand Mujeres Creando était une pharmacie populaire dans une zone périphérique de la ville, je pense à l'absurde.
Puisqu'il y a un couvre-feu, est-il interdit de survivre pour toutes celles et ceux qui vivent du travail de nuit ? La société bolivienne est une société prolétarisée, sans salaire, sans emploi, sans industrie, où la majeure partie de la population survit dans la rue, au sein d'un gigantesque tissu social désobéissant. Pas une seule des mesures copiées ne correspond à nos conditions de vie réelles, non seulement en ce qui se concerne les dettes, mais aussi pour la vie même. Toutes ces mesures copiées d'économies qui n'ont rien à voir avec la nôtre ne nous protègent pas de la contagion, mais nous privent au contraire de formes de subsistance qui sont la vie même. Notre unique alternative réelle est de repenser la contagion, cultiver la contagion, nous exposer à la contagion et désobéir pour survivre. Il ne s'agit pas là d'un acte suicidaire, mais de sens commun. Et peut-être que ce sens commun, c'est le sens le plus puissant qu'on puisse imaginer.
Et que se passe-t-il si nous décidons de préparer nos corps à être contaminés ? Que se passe-t-il si nous admettons que nous allons certainement nous contaminer et qu'à partir de cette certitude, nous apprenons à affronter nos peurs ? Que se passe-t-il si face à l'absurde, autoritaire et stupide réponse étatique au coronavirus, nous envisageons l'autogestion sociale de la maladie, de la faiblesse, de la douleur, de la pensée et de l'espoir ? Que se passe-t-il si nous nous moquons de la fermeture des frontières ? Que se passe-t-il si nous nous organisons socialement ? Que se passe-t-il si nous nous préparons pour embrasser les morts et pour prendre soin des vivantes et des vivants, par-delà les interdictions qui ne produisent rien d'autre que le contrôle de notre espace et de nos vies ? Que se passe-t-il si nous passons de l'approvisionnement individuel à la casserole commune, contagieuse et festive, comme tant de fois nous l'avons fait ?
Ils diront une fois de plus que je suis folle et que le mieux c'est d'obéir à l'isolement, à la réclusion, à la distanciation sociale, de respecter ces mesures quand le plus probable c'est que toi, ton amante, ton amie, ta voisine ou ta mère se contaminent. Ils diront une fois de plus que je suis folle, alors que nous savons que dans cette société, il n'y a jamais eu les lits d'hôpital dont nous avions besoin, et que si nous y allons, nous mourrons à la porte en suppliant. Nous savons que la gestion de la maladie se fera majoritairement à domicile. Préparons-nous socialement pour cela. Que se passe-t-il si nous décidons de désobéir pour survivre ? Nous devons nous nourrir en attendant la maladie et changer d'alimentation pour résister. Nous devons chercher nos coléries, médecins en quechua, et fabriquer avec LE ces remèdes non pharmaceutiques, essayer avec nos corps et explorer ce qui nous convient le mieux. Nous avons besoin de coca, de farine de kanyawa, d'amarante et de soupe de quinoa pour résister à la faim. Tout ce qu'on nous a appris à mépriser.
Que la mort ne nous attrape pas transie de peur en obéissant à des ordres idiots. Qu'elle nous attrape en train de nous embrasser. Qu'elle nous attrape en train de faire l'amour et non la guerre. Qu'elle nous prenne en train de chanter et de nous serrer dans les bras, car la contagion est imminente.
Parce que la contagion, c'est comme respirer. C'est par la réclusion, l'interdiction et l'obéissance que le coronavirus nous condamne à l'asphyxie, plus que par la maladie.
Je repense à la scène inoubliable du film Nosferatu. Alors que la mort est imminente et que la peste, incarnée par des rats, a envahi toute la ville, tout le monde s'assoit à une grande table, sur la place, pour partager un banquet collectif de résistance.
Qui nous trouve ainsi le coronavirus, prête pour la contagion.
Depuis 6 semaines, dans mon quartier résidentiel et plutôt bourge, les rues sont calmes. Pas vides, mais toujours calmes. Des gens portent un masque, d'autres non. Des gens changent de trottoir en se croisant, d'autres non. Certains ont l'air d'aller quelque part, d'autres flânent. Presque personne n'est immobile, à part celles et ceux qui ne semblent pas avoir le choix, faute de logement ou en attendant le client devant leur boutique ou leur vélo de livraison. J'ai du mal à me limiter à mon kilomètre et à mon heure de promenade autorisée. Je flirte un peu avec les limites d'espace et de temps. Pendant mes balades, je regarde les gens, leur corps, leur trajet, leur rythme, à l'affût de surprises. Je fais une collection de scènes impromptues, de bouts de vie que je m'amuse à décrypter. Comme cette femme, un samedi soir, elle fait les 100 pas sur son balcon. Son balcon est étroit, mais assez long. Je la regarde faire 5 allers-retours, rivée au 3e étage de son immeuble. Elle semble énergique, à moins qu'elle ne soit énervée. A-t-elle besoin de sport ? Ou de se changer les idées ? Ou d'évacuer une colère ? Pourquoi ne descend-elle pas dehors dans son kilomètre de sortie ? Est-elle coincée sur son balcon par un enfant qu'elle ne peut pas laisser seule ? Ou par des pâtes cuites dans 7 minutes ? Craint-elle de contaminer quelqu'un ou de se faire contaminer? Ou alors peut-être qu'elle a fait le pari d'accumuler sur son balcon les 180 km du GR de Corse? Je la laisse à sa marche en 2 dimensions sur la façade de son immeuble, comme un jouet remonté, et je reprends mon chemin en savourant les zigzags du trajet.
Et tout de suite, on s'écoute Canción sin miedo de Vivir Quintana, qui est une chanson qui nous vient du Mexique et qui est un message d'espoir et de force pour toutes les femmes victimes de violences.
tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas,
sin miedo pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Le témoignage qui suit a été féminisé ou non selon les endroits, sans tenir compte de la règle patriarcale qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Coucou. Je pose ma voix pour vous parler de mon confinement dans un endroit où l'on est plutôt épargné par l'omniprésence policière, l'arbitraire des contrôles et le manque d'espace. Dès là où je suis, j'imagine les zones urbaines comme des clapiers de bitume, avec différents régimes de contrôle selon les quartiers disciplinaires. Étant en arrière-pays corrézien, je suis plutôt entourée de champs et de forêts. Autrement dit, j'ai des conditions de confinement plutôt privilégiées. C'est la campagne, peuplée de hameaux dispersés. On n'est pas si loin de Tulle qu'il y a un quart d'heure, 20 minutes en voiture. Ainsi, je prolonge mon séjour là où j'étais en stage immersion avant que les mesures d'enfermement général aient été amorcées. C'était un choix délibéré d'y rester. Ici au moins, je bénéficie d'être parmi le monde végétal et animal, loin des densités humaines, du béton et des flics, en proximité avec des humains avec qui on peut envisager collectivement les choses et qui ont certaines capacités d'autonomie. Le 16 mars, mon lieu de stage a fermé. Les permanentes sont allées se confiner chacune chez elles, à quelques kilomètres. Heureusement, je ne me suis pas retrouvée seule, occupante du grand bâtiment évidé. J'ai été rejointe le lendemain par 3 autres meufs, ayant entamé ailleurs la même formation que moi, et Fod, il parle farsi et bien peu le français. Ainsi formons-nous à 5, un foyer de circonstances amené à se disloquer en sortie de confinement. Nous sommes des confinées squatteuses consenties. Nous nous retrouvons entre personnes ne se connaissant pratiquement pas, en bonne condition physique mais sans certitude sur notre état viral, pour une durée non définie et sans avoir d'impératif commun, autre que d'avoir à vivre cette période indéfinie ensemble, dans des conditions plutôt favorables. La réalité quotidienne rurale où je me trouve est plutôt éloignée de la coercition policière autant que de l'applicabilité des mesures gouvernementales. quelques jours après la fermeture des activités du lieu devenu mon foyer de vie, nous est apparue la nécessité d'organiser la vie sociale et matérielle de notre localité immédiate en période d'épidémie. On s'est vite rendu compte que dans le flou des situations, la confiance ne suffisait pas. La multiplication des croisements de personnes croisant elles-mêmes d'autres personnes, la présence d'enfants pour qui la distanciation est complexe à intégrer, tout cela multiplie les risques de portage possible du COVID-19. Nous avons donc tenu une réunion distanciée entre représentantes d'une dizaine de foyers voisins. Nos situations familiales et professionnelles sont diverses, mais hormis notre club des cinq, les gens se connaissent déjà, ont des activités, des relations d'entraide et ou d'affinités communes. Nous avons discuté, clarifié et mis en place les règles à nous imposer vis-à-vis de l'épidémie du COVID-19. Et elle était importante pour nous de mettre en œuvre, pour l'heure, des mesures allant dans le sens de la circonscription de l'épidémie. Malgré cela, nous avions en tête qu'il est tout aussi important de maintenir une vie et une organisation sociale propre, ainsi que la pérennité d'activités de subsistance. Cela fait plus d'un mois. À l'époque, certaines espéraient n'avoir qu'une semaine de confinement. À présent, les mesures nationales sont encore plus sévères et on ne sait pas trop quand va être lancé le déconfinement. Mais l'on sait que le post-confinement sera une période encore plus complexe entre les enjeux socio-économiques, les enjeux de pouvoir, les nécessités matérielles, les nécessités de sociabilité et l'appréhension de la maladie. Nous avions fait cette rencontre de voisinage, certes à distance, mais sans les fameux masques de protection. Dorénavant, nous sommes plusieurs à prévoir la nécessité d'en avoir à disposition de tous. Cependant, notre vie suspendue est pour moi surtout rythmée par l'éveil printanier des collines verdoyantes et chantantes et par les travaux de subsistance et les échanges avec mes cohabitantes. La dernière fois que je suis allée à la ville, c'était il y a un mois, pour faire un plein de courses alimentaires et une consultation médicale. Dans les rues clairsemées de la préfecture de Tulle, je n'ai guère senti de tension. Au centre médical, personne ne portait de masque, pas même la médecin. Les nouvelles de l'épidémie, du confinement et de sa coercition urbaine et mondiale m'arrivent dans la solitude de l'interface virtuelle que je limite à quelques heures par semaine. On échange brièvement de ce sujet. Et il en est de même du post-confinement à venir. La peur et le déni, ainsi que l'évitement de la conflictualité, ne sont pas étrangères à cette réserve. C'est aussi une volonté de ne pas se laisser envahir par une négativité éloignée de notre réalité immédiate, et l'importance que l'on s'accorde à apprécier pour l'occasion une vie ancrée à notre milieu environnant, où l'on peut en redéfinir les rythmes et les termes. Bien que le temps soit suspendu, le temps se dilate et se remplit plus vite qu'on a le temps d'y penser. À ma satisfaction, dans notre foyer à cinq, tous sans activité professionnelle, le télétravail et les réseaux sociaux ont assez peu envahi notre quotidien. La vie s'organise entre nous, en lien avec les voisins voisines. Et il y a la serre à entretenir, celle qui alimente habituellement le restaurant de mon lieu de stage, et elle nous fournit de généreuses récoltes de légumes. Il y a les travaux et soins agricoles chez les voisins voisines. Il y a des chantiers d'entretien des locaux dans lesquels on séjourne. Et puis les échanges et découvertes avec les cohabitantes. Couture, usage de plantes environnantes, vannerie, cours de français avec FOD, etc. Ainsi, nous tâchons d'organiser notre vie depuis la base dans une dynamique d'entraide en prise avec notre milieu de vie. Depuis les premiers instants de notre vie commune, la qualité de relation de notre foyer de circonstance est l'objet d'une attention continue et nous y accordons un temps conséquent, de façon formelle ou informelle. On se fait de bonnes bouffes collectives, s'offrant une part importante de nos sociabilités et préoccupations. Nous avons la joie de partager des moments récréatifs. Ainsi, nous nous sommes faites les enseignantes de pétanque à FOD. Et nous veillons aussi à ce que chacune ait du temps pour soi. Et c'était une expérience de vie collective assez forte, où l'on compose avec nos cinq individualités ce que l'on est à mesure de mettre en partage dans le huis clos du confinement. C'est une situation de quasi-non-mixité entre meufs. Fod, seul humain mâle du foyer, participe facilement aux nécessités domestiques. Mais il se trouve en retrait du groupe et a de fait en bonne partie dû à la barrière de la langue. Nos relations de voisinage sont un peu plus mixtes. En contexte, je trouve peu pesantes les relations genrées, relativement classiques, bien qu'influencées par les principes féministes. Les questions féministes font partie de temps à autre de nos discussions, entre femmes surtout. Cependant, probablement pour diverses raisons, le vécu de notre quasi-non-mixité ou de la présence importante de femmes n'est pas pensé ni questionné. Je me dis qu'à gratter cela, on trouverait pourtant des choses intéressantes à voir comment ça se passe et à les comprendre. Bref, la situation de confinement se passe en profitant des prairies, des bois et des échanges avec le voisinage. Car la flicaille trouve peu d'intérêt à assurer une présence jusque dans ses hameaux. Je me dis que notre autarcie conduit pour l'heure à l'indulgence, là où d'autres sous dépendance urbaine sont pourchassés en tant que dangereuses irresponsables. Ça n'empêche pas des apparitions sporadiques avec leurs patrouilles, leurs drones, leurs indiquis. Ici aussi, la police est en chasse. Ainsi du pote ayant planté sa tente sur un terrain nouvellement acquis. Il s'est fait réveiller un matin, après le passage d'un hélico, par deux gendarmes avec pare-balles venus contrôler. Sait-on jamais si c'était un squatteur, voire un sans-papier. Dans d'autres campagnes, les chasseurs se font auxiliaires de police, comme cela a été aménagé par des législations antérieures. Je tiens à éloigner cette atmosphère oppressante. Bien souvent, on prend les chemins, libres d'attestation et sans trop se restreindre, les routes dégagées du plein de voitures. Juste de ma liberté en pensant à celles qui sont contraintes à une heure de promenade journalière hors de leurs 19 mètres carrés. Je respire tant que je peux. Et vous savez quoi? C'est bien ça que j'ai envie de vous partager. C'est cet air. Je respire au dehors et à visage découvert. Un spectacle de coucher de soleil magnifique chaque soir. Bon, pas ces derniers jours car il pleut beaucoup. Ce qui est une bonne nouvelle pour la Terre et ce qu'elle nous donnera. Je disais donc un disque rouge magnifique sur les collines verdoyantes alentour. Baigné du chant foisonnant des oiseaux de printemps, des crapauds et des grillons arrivés bientôt. Cet air, je vous assure, il m'enivre tellement il est doux. Tellement il est bon quand il entre par mon nez et descend dans mes poumons et qu'il s'expire tout aussi bienfaisant. Je crois bien n'avoir jamais autant apprécié cette douceur sans gêne allergique. Je veux croire que la baisse de pollution atmosphérique liée au confinement y est pour quelque chose. J'aimerais que tout un chacune en prenne conscience et que ce confinement conduise à penser nos activités et déplacements autrement que par des circulations intenses et polluantes. Je sais bien que ce n'est pas un problème individuel et n'y voyez pas d'appel à la fermeture des frontières. Mais je crains que ceci soit comme un rêve de non-fumeur. L'envie d'air sain ne résiste pas à l'appel de la consommation. Et je sais que les prochains mois nécessiteront de se cacher derrière des masques dans bien trop de situations.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples.
1. Vous ne pouvez pas quitter la maison en principe, mais si vous en avez besoin, vous pouvez quand même. 2. Les masques ne servent à rien, mais il faudrait peut-être en porter, ça peut sauver, ça ne sert à rien, mais ça sera peut-être obligatoire. 3. Les magasins sont fermés, sauf ceux qui sont ouverts. 4. Il ne faut pas aller dans les hôpitaux, sauf s'il faut y aller. Même chose pour les médecins, il ne faut y aller qu'en cas d'urgence, à condition que vous ne soyez pas trop malade. 5. Ce virus est mortel, mais pas trop effrayant néanmoins, sauf que si, parfois, en fait, ça va être une catastrophe planétaire. 6. Les gants n'aideront pas, mais ils peuvent aider quand même. 7. Tout le monde doit rester à la maison, mais il est important de sortir. 8. La nourriture dans le supermarché ne manquera pas, mais il y a plein de choses qui manquent si vous y allez en fin de journée, mais il ne faut pas y aller le matin. 9. Le virus n'a pas d'effet sur les enfants, sauf ceux sur qui il en a. 10. Les animaux ne sont pas atteints. Mais il y a malgré tout un chat qui a été testé positif en Belgique en février, quand on ne testait encore personne. 11. Vous aurez de nombreux symptômes si vous êtes malade. Mais vous pouvez aussi tomber malade sans symptômes, avoir des symptômes sans être malade ou être contagieux sans symptômes. 12. Pour ne pas être malade, vous devez bien manger et faire du sport. Mais mangez malgré tout ce que vous avez sous la main et c'est mieux de ne pas sortir. Enfin si, mais non. 13. Il est préférable de prendre l'air, mais vous serez très mal si vous allez prendre l'air. Et surtout, n'allez pas dans les parcs ou alors sans vous asseoir. Sauf que maintenant, si vous pouvez, si vous êtes vieux, mais pas trop longtemps, ou enceinte, mais pas vieille. 14. Vous ne pouvez pas aller chez les personnes âgées, mais vous devez vous en occuper et apporter des courses et des médicaments. 15. Vous ne pouvez pas sortir si vous êtes malade, mais vous pouvez aller à la pharmacie. Pour les soignants, même avec de la température, vous pouvez travailler. Allez, pas plus de 38 degrés. 37,9, c'est pas grave, sauf si vous n'êtes pas soignant. 16. Vous pouvez commander la livraison de plats préparés qui l'ont peut-être été par des personnes qui ne portaient ni masque ni gants, mais il faut laisser décontaminer vos courses pendant 3 heures dehors. La pizza aussi. 17. Chaque article ou interview inquiétant commence par « Je ne veux pas semer la panique, mais… » 18. Vous ne pouvez pas voir votre mère ou votre grand-mère âgée, mais vous pouvez prendre le taxi et rencontrer un chauffeur de taxi âgé. 19. Vous pouvez vous promener avec un ami, mais pas avec votre famille si elle ne vit pas sous le même toit. 20. On vous dit que se promener avec la bonne distanciation sociale n'est pas dangereux. Alors pourquoi on ne peut pas se promener avec d'autres amis ou avec de la famille, un à la fois, si on est dehors à la bonne distance? 21. Le virus reste actif sur différentes surfaces pendant 2 heures. Non, 4. Non, 6. Non, on n'a pas dit des heures, c'est peut-être des jours, mais il a besoin d'un environnement humide. Oh non, en fait, pas nécessairement. 22. Le virus reste en suspension dans l'air. Enfin non, ou oui, peut-être, surtout dans une pièce fermée. En 1 heure, un malade peut en contaminer 10. Donc si ça se trouve, tous nos enfants ont déjà été contaminés à l'école avant qu'elle ferme. 23. On compte le nombre de morts, mais on ne sait pas les personnes sont affectées. Puisque si, on a testé que c'était presque mort. Pour savoir si c'est de ça que vous allez mourir. 24. On n'a pas de traitement, sauf qu'il y en a peut-être un qui n'a pas vraiment dangereux, sauf si on en rencontre trop, ce qui est le cas de tous les morts. 25. On devrait rester connu jusqu'à l'extérieur du virus. Et pour ça, il faut qu'on soit confiné. 22. Des virus restent en suspension, donc on ne peut pas voir le virus très long, sur le virus de la personne qui est en train de se faire 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 en train. Oh non, en fait, pas nécessairement. C'était un message du gouvernement concernant l'épidémie de coronavirus en cours.
Un après-midi, je me promène sur un terrain vague, une ancienne caserne, un futur éco-quartier. C'est une promenade moitié légale, moitié fautive. Je suis dans le kilomètre de sortie autorisée, mais ce n'est pas clair si ce chemin est privé ou non. Autour de moi, c'est vide, c'est grand, c'est agréable. Il reste encore quelques arbres entre les bâtiments pas encore détruits. En avançant un peu plus loin, j'approche d'un hangar désaffecté. Très grand, très haut. Il s'en échappe une musique, fort. Est-ce que quelqu'un vit là? Une fête clandestine se cache-t-elle au creux de cette halle immense? Par l'interstice d'une porte, j'arrive à voir au loin une silhouette solitaire, là-bas au fond, en train de boxer contre un pilier, tout en air. Je savoure le contraste entre cet espace immense abandonné et ce corps seul en action. Le contraste entre cette salle de sport, peinarde, insoupçonnable de l'extérieur, et cette musique à fond qui attire la curiosité. Ce boxeur anonyme a trouvé ce dont beaucoup d'entre nous rêvons aujourd'hui. De la place et de l'intimité. Deux besoins que le confinement rend difficile à conjuguer.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet.
On vient de s'écouter Les Tuileries de Colette Mani et on va enchaîner avec la chronique de Béné sur une vie en confinement.
Depuis qu'on est confiné, on ne compte plus les injonctions au bonheur et à la réussite du dit confinement, tantôt présentées comme une parenthèse enchantée de repli sur soi et de retour à l'essentiel, tantôt comme un espace-temps inédit de création, de réflexion, d'imagination, dont il faudrait absolument tirer profit. Confiné, on pourrait apprendre à faire son pain soi-même, écrire un roman, en profiter pour lire ou relire Proust, se lancer dans le jardinage ou la couture, pratiquer une activité physique pour se maintenir en forme, faire de la méditation, etc. Même confiné, il faudrait rester productive, continuer à prendre soin de soi et des autres, s'épanouir dans cet enfermement forcé. Et tout ça me met en colère. D'abord parce qu'on fait comme si l'espace domestique était forcément un lieu d'épanouissement personnel, comme si tout le monde avait les moyens de prendre du temps pour soi, pour lire, se cultiver, créer. On oublie alors toutes celles qui vivent dans des espaces exigus, celles qui n'ont pas de livres chez elles, celles qui doivent s'occuper des gosses à longueur de journée, les aider à faire leurs devoirs, mais aussi faire à manger, remplir le frigo, laver le linge. Faut-il rappeler, encore une fois, que le travail domestique, qui est un travail gratuit, est très largement accompli par les femmes. Et il ne s'agit pas seulement des tâches ménagères, mais aussi d'un travail émotionnel qui consiste à prendre soin des autres, à contenir patiemment les humeurs et les angoisses, à assister celles et ceux d'entre nous qui sont les plus vulnérables. Aussi parce que cette romantisation du confinement ne propose finalement qu'un seul modèle d'épanouissement, qui correspond plus ou moins au mode de vie d'une catégorie privilégiée de la population qui a le temps et la disponibilité d'esprit nécessaires pour ses activités intellectuelles et créatives. Qu'en est-il pour toutes celles et ceux qui n'aspirent pas à cela, qui ne trouvent pas dans la lecture ou le dessin une échappatoire à la réalité quotidienne? Enfin, parce que, quand bien même toutes les conditions matérielles seraient réunies pour réussir notre confinement, on pourrait encore se sentir déprimé, abattu, angoissé par ce qui se passe et peiné à trouver de l'énergie. Ce discours sous-entend que nous ne pouvons qu'apprécier cette inertie forcée et nous fait comprendre qu'il nous faut traverser cette épreuve avec calme et sérénité afin d'en tirer parti. Mais n'est-il pas légitime d'exprimer, au minimum, de l'inquiétude, de l'angoisse, voire même de la colère face au présent et à l'avenir tel qu'il s'annonce, entre gestion politique autoritaire et défense des intérêts capitalistes au mépris des vies et des écosystèmes. J'aimerais aussi parler des logiques bien connues qui refont surface avec l'épidémie qu'on traverse, des logiques d'individualisation et de responsabilisation ou culpabilisation des individus. On nous reproche de ne pas prendre suffisamment au sérieux la menace de l'épidémie, d'être irresponsable parce qu'on sort se promener ou parce qu'on continue de voir là ou les personnes qui nous sont les plus proches. On nous reproche de ne pas garder notre calme ou de ne pas applaudir tous les soirs à 20h. On nous culpabilise parce qu'on n'est pas assez productive ou parce qu'on se laisse trop facilement abattre. Chacun et chacune d'entre nous devrait se sentir responsable alors qu'on nous a menti, qu'on nous a assuré que tout allait bien, qu'on nous a donné des injonctions contradictoires. Allez voter, ne sortez pas de chez vous. Enfin si, sortez travailler, mais pas à plus d'un kilomètre. Je refuse d'être responsable si ceux qui nous gouvernent ne le sont pas. Irresponsables sont ceux qui choisissent de sacrifier la population pour sauver l'économie.
Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Vous êtes responsables de la casse du système public français. Vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors taisez-vous, on ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre.
Je crois que c'est cette même logique qui nous conduit aussi à l'héroïsation des soignants et des soignantes tous les soirs à 20h. Je ne dis pas que les soignants et soignantes ne sauvent pas des vies. Je dis juste qu'ils et elles font leur travail dans des conditions désastreuses parce que les responsables politiques n'ont fait que réduire les moyens des hôpitaux publics au cours des dernières décennies. En faire des héros ou des héroïnes, c'est encore une fois faire peser la lourde responsabilité de la survie ou de la mort sur une seule personne. Il nous aura fallu une pandémie pour qu'on se mette à applaudir les soignantes, les éboueurs et les caissières. Les voilà sortis de l'ombre, ces travailleurs et travailleuses d'ordinaire invisibles et méprisés. Mais que vaut cette reconnaissance qui n'arrive qu'en temps de crise? Va-t-on continuer, une fois l'épidémie derrière nous, à les remercier pour ce qu'ils et elles font tous les jours? Est-il utile de rappeler, encore une fois, que les femmes sont surreprésentées dans les métiers du care, si acclamés aujourd'hui? Qu'elles représentent 90% des aides-soignantes, 98% des aides à domicile, 88% des infirmières, 80% des caissières et 70% des agents d'entretien? Que ce qui fait tenir la société, comme l'a si bien rappelé Christiane Taubira, ce n'est ni plus ni moins qu'une bande de femmes? Et que parmi elles, les plus précaires, celles qui nettoient le monde, pour reprendre les mots de Françoise Vergès, sont encore et toujours des femmes racisées? Alors, quand l'heure est aux applaudissements, quand on nous somme d'être heureuses et épanouies en ces temps de confinement, j'ai envie de crier. Mais je ne crie pas. Je garde cette colère en moi, bien au chaud, pour l'après. Et j'espère que nous serons nombreuses.
Aujourd'hui, je suis tombée sur une femme, assez âgée, assez petite. Elle est arrêtée au bout d'un boulevard, pile au milieu des deux rangées d'arbres. Elle fait face à une chapelle qui sert de rond-point. Elle est comme au milieu d'une scène de théâtre, avec derrière elle le décor, les deux rangées d'arbres qui s'en vont se rejoindre à l'horizon. J'arrive par le côté, je la vois de profil. Elle danse et c'est superbe. Un petit mouvement des bras et des épaules, tout en gardant le dos très droit. Un rythme doux et régulier, le regard posé devant elle, droit dans les yeux d'un public imaginaire. Elle est absorbée par son mouvement et semble prendre plaisir à cette séance de gymnastique de rue. Elle est tranquille, souriante, belle comme tout sous son petit chapeau qui la protège du soleil. Je repars avec sa danse dans la tête et l'envie très forte que la rue redevienne vivante, qu'on puisse sortir sans dérogation pour danser tout notre sou au soleil, au milieu du tumulte de passants qui ne s'éviteraient plus.
Le prochain morceau qu'on écoute s'appelle Venom. C'est Little Smith qui chante. C'est un titre qui est sur l'album qu'elle sort l'année dernière, qui s'appelle Grey Area, et c'est vraiment cool.
Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I'm in the best seat, from time and the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour, never giving credit where it's due, cause you don't like pussy. In power, venom. Venom.
my might. If you ever heard what heard in the night, what fright must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sending to the sky. I guess it's you and I gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talk a big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there, rolling with no automatic clips. Moving scatter, you're erratic and shit. Niggas pussy licking batty and shit. Oh, you mad? Then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us. Venom. Venom. Venom.
Quand une copine a proposé l'idée de faire des chroniques de livres pour notre émission en confinement, l'envie a tout de suite germé. Je sortais tout juste de la lecture de Sylvia Pankhurst, féministe, anticolonialiste, révolutionnaire, de Marie-Hélène Dumas, aux éditions Libertalia. J'ai eu envie de partager ma découverte de cette féministe intersectionnelle, mais aussi les réflexions, questionnements que la lecture du livre a soulevés en moi. Alors, qui est Sylvia Pankhurst ? Elle est née en 1882 dans une famille anglaise bourgeoise. C'est sa mère, Emmeline Pankhurst, qui a fondé l'Union politique et sociale des femmes, organe de lutte pour le droit de vote des femmes en Angleterre, plus souvent connu sous le nom de Mouvement des suffragettes. Sylvia milite aux côtés de sa mère et sa sœur jusqu'en 1912, année où elle décide de fonder une branche de l'UPSF dans les quartiers populaires de l'East End à Londres. Elle conteste depuis l'intérieur la vision selon laquelle c'est aux femmes des classes supérieures de mener la lutte au nom de toutes les femmes, et que ce sont des actions individuelles coup de poing menées par des femmes reconnues qui auront un impact réel sur le combat. Elle déplore la non-prise en compte des revendications des femmes les plus précaires, qui mènent pourtant de grandes grèves depuis de nombreuses années. Elle organise des manifestations et des marches pour le droit de vote de toutes les femmes, aux côtés des ouvrières, mères solitaires, syndicalistes. Elle est incarcérée et gavée à de nombreuses reprises. En janvier 1914, sa mère et sa sœur excluent définitivement la branche de l'East London de l'Union politique et sociale des femmes pour divergence politique, et Sylvia fonde avec les femmes de l'East End la Fédération des suffragettes de l'East London. Un journal nommé le Women's Dreadnought, littéralement en français « Les femmes qui ne redoutent rien », est créé et sera le fer de lance du militantisme de Sylvia Pankhurst jusqu'à son exclusion du Parti communiste. Dès la déclaration de guerre, la Fédération se positionne comme antimilitariste, à l'inverse de l'Union politique et sociale des femmes qui cesse toute lutte pour soutenir l'effort de guerre. Bien qu'elle considère que la pauvreté doit être abolie et non soulagée par de la charité, et que c'est à l'État d'en porter la charge, la Fédération met en place des actions pour atténuer la pauvreté sévère dans laquelle l'East London s'enfonce du fait de la guerre. Ouverture de crèches, de restaurants à prix coûtant, de cliniques pédiatriques ou encore de fabriques de jouets où les femmes sont payées des droits d'auteur pour leur production. Sylvia Pankhurst dénonce le lien étroit entre guerre et capitalisme, et son combat pour le droit de vote des femmes se mue au fur et à mesure en combat pour le suffrage universel. Seuls les hommes propriétaires ont alors le droit de vote. À son grand dam, en 1918, le Parlement élargit le suffrage à tous les hommes de plus de 21 ans et ouvre le suffrage aux femmes propriétaires ou femmes d'hommes propriétaires de plus de 30 ans. C'est pour elle un échec, car cela met de côté les femmes pauvres, abandonnées, veuves, ainsi que certains hommes pauvres, ceux qui souscrivent à l'aide sociale, ou politiquement opposés au gouvernement, les objecteurs de conscience. Avec la révolution bolchévique de février 1917, la fédération prend le nom de Fédération socialiste ouvrière. Sylvia Pankhurst assiste en 1921 à la Troisième Internationale communiste à Moscou, où elle revendique l'antiparlementarisme. Elle est exclue un an plus tard du Parti communiste britannique pour son positionnement trop à gauche et parce qu'elle refuse que le journal de la Fédération soit obligé de suivre la ligne du parti. Parti qui supporte de moins en moins les voix contestataires en son sein. Elle se retrouve très isolée politiquement et se retire alors de la vie publique pour se consacrer à l'écriture. Elle y replonge toutefois par la lutte antifasciste et contre la colonisation de l'Éthiopie par l'Italie. Elle meurt en Éthiopie en 1960. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de partager cette lecture ? Qu'est-ce que je retiens de Sylvia Pankhurst ? On commémore aujourd'hui largement la lutte des suffragettes menée par l'Union politique et sociale des femmes. On honore Emmeline Pankhurst avec une statue devant le Parlement britannique, et c'est souvent la date de 1918 qui est retenue comme année d'accès au vote pour les femmes en Angleterre. Il fallut en réalité attendre encore 10 ans pour que le vote soit accordé à toutes les femmes, et c'est si peu souvent que l'on entend parler de Sylvia Pankhurst, ou encore d'Annie Kenney, une des seules ouvrières à avoir fait partie de la direction de l'Union. J'ai eu envie de partager cette trajectoire de vie car j'y ai retrouvé les combats qui me parlent. Tout d'abord, l'intersectionnalité de sa lutte. Initialement ciblée sur l'obtention du vote des femmes, elle fait rapidement un lien entre toutes les oppressions. Sexisme, racisme, capitalisme, impérialisme, colonialisme. Même sa vie personnelle sera l'objet d'une lutte puisqu'elle refusera de se marier avec le père de son fils, revendiquant ainsi l'union libre et faisant rentrer le politique dans l'intime. Ensuite, les stratégies et outils de lutte que la Fédération de l'East London tente de promouvoir. Auto-organisation, empowerment des femmes et anti-autoritarisme. Aussi, sa lutte contre l'institutionnalisation des combats et pour une transformation révolutionnaire. Elle qui a lutté tant d'années pour l'accès au vote parlementaire des femmes finira par militer contre la démocratie parlementaire britannique, considérant le Parlement comme un lieu de reproduction des inégalités. Un autre positionnement qui a retenu mon attention est la politisation de la charité. Trop souvent, l'aide aux plus démunis, entre guillemets, m'apparaît en effet dépolitisée et peut finir par n'être qu'un rouage du système capitaliste. Au final, c'est sa radicalité que je retiens d'elle. Elle a fait peu d'entorses à ses convictions et a su garder une indépendance d'action et de parole assez remarquable tout au long de ses années de lutte. Et c'est très probablement cette radicalité qui fait qu'elle n'est pas commémorée de la même manière que sa mère et sa sœur dans une société hétéropatriarcale et capitaliste.
Now, in the basement flat, by the garbages, where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see the top of her head from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her, on the kitchen wall, is a black and white image of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache. She cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. Esther is worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her.
Ce qui m'a questionnée, fait réfléchir, renforcée dans mon militantisme. Sylvia Pankhurst avait aussi des contradictions, et quelques-unes d'entre elles sont soulignées par l'auteur. L'origine de l'argent qui lui a permis de conserver l'indépendance du journal de la Fédération, provenant de grandes familles industrielles exploitant les personnes même aux côtés desquelles elle militait. L'absence de critique de l'autoritarisme de la révolution bolchévique, du moins au début, alors que d'autres en ont tout de suite dénoncé les limites et abominations. Ou encore le fait qu'elle n'ait jamais quitté ses espaces de militance, alors même qu'il faisait des choses contre lesquelles elle luttait. Elle en a été exclue car elle a refusé de taire sa radicalité, mais elle n'en est jamais partie de son propre chef. C'est sûrement cette dernière contradiction qui m'a fait le plus réfléchir, car elle m'a fait écho, et m'apporte des éléments de réflexion sur mes espaces de militance féministe, mais aussi plus généralement sur ma posture militante. Certains propos ou opinions que je tiens m'amènent à me sentir parfois très seule dans des espaces amicaux, familiaux ou même militants. Ce moment où tu as l'impression d'être seule même au sein de ce que tu pensais être ton propre camp, que tu es l'empêcheuse de tourner en rond, et que tu t'entends dire « Oh ça va, faut pas voir le mal partout », ou encore « Tu es juste une hypersensible ». Ce moment où tu te demandes s'il ne serait pas plus raisonnable, et surtout plus confortable, de lâcher du lest, mais qu'il y a une profonde force en toi qui t'en empêche. La solitude dans laquelle Sylvia Pankhurst se retrouve après 20 ans de combat au quotidien, m'a à la fois attristée, j'aurais été plus rassurée par une autre fin, et à la fois confortée dans l'idée qu'il est possible de ne pas se résigner dans la lutte contre toutes les oppressions. Et du coup, cette réflexion m'a apporté des billes pour répondre à la question « Jusqu'où est-ce que je suis prête à rester pour maintenir une unité apparente au sein d'un collectif militant ?» Croyant, comme Sylvia Pankhurst, à la force du nombre, à l'importance de faire masse, à la puissance du collectif, je me pose parfois la question, dans certains réseaux féministes auxquels j'appartiens, de comment fixer la ligne rouge où tu pars, la limite politique en dessous de laquelle tu décides de faire scission. Est-il plus judicieux de rester et lutter de l'intérieur afin de montrer un visage uni à l'extérieur? Au risque d'être associé à des propos, opinions, actions qui ne te représentent pas, voire te font honte? N'est-ce pas prendre le risque de reculer sur certaines de tes lignes rouges, de faire des concessions que tu n'aurais pas pu imaginer faire? Est-il vrai que l'on peut ne pas être d'accord sur tout, mais lutter ensemble pour une cause commune? Est-il vrai que l'on peut militer côte à côte sans être d'accord sur certains fondements? Ou n'est-il pas plus courageux de partir afin de clairement montrer que certaines limites ne peuvent pas être franchies? J'avais toujours pensé que je choisirais sans réfléchir la seconde option, mais la réalité, les affects, la peur d'être trop peu nombreuses brouillent mes repères. Bien que Sylvia Pankhurst ne m'ait pas permis de résoudre ce questionnement, son histoire m'a aidée à formuler ce qui me dérange. Voilà, ça en est fini de mes réflexions. J'en ai beaucoup dit, mais je vous conseille vivement de le lire, ce livre. Il est plus riche encore que ce que j'en ai dévoilé. Alors bonne lecture à toutes!
Europe is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules, and we have learned nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. The system's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night, and the pubs, man, it's 2-for-1 drinks in the clubs. Are we scrubbed up? Well, washed off the work and the stress. Now all we want some excess, better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from this earth so these games could be played. I see it tonight in stains on my hands. The buildings are screaming. Can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, moving up packs like these were the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want, then dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. For sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat your dream, now don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. But what am I gonna do to wake up?
Et ben voilà, on espère que l'émission vous a plu. On tenait à saluer et remercier Flora et Léa qui étaient avec nous dans cette émission pour leur participation exceptionnelle. Et puis, on espère qu'on va se retrouver vite.
En vrai? Et on espère qu'au milieu de tout ce bordel, et ben tout ça ne servira pas à rien. Salut.
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 Salut.